La Garonne, 97.9.
Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver à la pause du déjeuner entre midi et 13h pour ce Présence Midi. Avec au programme de ce magazine, eh bien, nous irons faire un petit tour dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, puisque Violaine Ricaud-Dumas s'entretiendra avec un paroissien de la paroisse de Bizanos qui se propose de faire une conférence pour expliquer tout simplement c'est quoi la messe. Alors, de façon simpliste, mais à la fois riche, à la fois. Vous l'entendrez avec Violaine Ricaud-Dumas. Et puis, comme nous le faisons aussi chaque jeudi, on partira dans le jardin avec Annick Baléry pour la chronique verte et on parlera du basilic cette semaine. Et puis, Anne-Rose Jankovic sera avec le frère Martin de l'abbaye de Tournai qui nous propose de lire un livre un peu particulier. Maryse Burgot, vous la connaissez peut-être, elle est grande journaliste sur France Télévisions. Elle a écrit un livre, elle est en plus de chez nous, hein, loin de chez moi. Grand reporter et fille de paysan, c'est le conseil de lecture que nous fait donc le frère Martin de l'abbaye de Tournai. Je ne savais pas d'ailleurs que Maryse Burgot était de notre région. Et puis on terminera aussi avec la belle voix et la douce voix d'Anne Lasserre qui nous amène dans les Pyrénées et qui nous fera aujourd'hui et qui nous lira des passages extraits de Ramon de Carbonnière. Voilà donc aujourd'hui le programme de ce Présence Midi. Je vous propose tout de suite de partir tranquillement du côté du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, retrouver Violaine Ricaud-Dumas.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9.
Michel Birac, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes paroissien de la paroisse Saint-Jean-du-Lano à Bizanos.
Oui.
Vous êtes théologien et vous nous proposez une explication de la messe expliquée pour tous. Vous proposez plusieurs séances à Bizanos et puis vous en proposerez une autre ailleurs, à Pau.
À Sainte-Bernadette.
Voilà, à Sainte-Bernadette, on en reparlera. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire pourquoi vous vous êtes lancé dans cela, puisque c'est vraiment une explication toute simple et en même temps très riche de ce qu'est la messe, ce que veut dire la messe?
Merci pour tous ces compliments que je ne mérite pas. Pour ne rien vous cacher, j'ai découvert dans l'Eucharistie, en la travaillant et en la vivant, parce que je vis de l'Eucharistie, vous vous en doutez, à travers ces rencontres partage, hein, où c'est interactif, que la place de la messe a une grande place chez moi. Quand dans Lumen Gentium on dit source et sommet de la vie chrétienne, je dis dans ma vie, c'est source et sommet. Et je crois que c'est le cardinal Dubac qui disait, il avait raison à l'époque, il n'y a pas d'église sans Eucharistie, il n'y a pas d'Eucharistie sans église. Et je découvert des trésors cachés en travaillant et en méditant le déroulé de la messe. Et combien de gens me disent « Oh, vous comprenez, la messe, c'est toujours pareil. On s'ennuie, on comprend pas. » Et ce qui m'a paru très, très fort, c'est que la messe, c'est une entité extrêmement riche, qui est un tout, et on ne peut pas, comme on le fait souvent, et moi-même, d'une façon un peu par la routine, se limiter au temps fort, qui est bien sûr le sommet, le temps de la communion, du partage du pain et du vin que l'on reçoit, mais que c'est un tout, la messe.
Il y a toute une signification.
Toute une signification, exactement. Oui, on parle de la table de la parole et la table de l'Eucharistie. N'oublions pas que et ça, merci Vatican II d'avoir remis ça à l'ordre du jour, nos frères protestants, la parole, c'est la parole de vie. Actuellement, on lit le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, « Je suis le pain de vie ». Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. La parole de Dieu est fondamentale dans la liturgie de l'Eucharistie. Et on ne peut pas séparer ça parce que c'est une parole de vie. Et Dieu nous parle par la parole de Dieu, par la parole que nous recevons, et il nous parle et il se donne à nous par le pain et le vin que nous recevons, fruit de la terre et du travail des hommes. Ce qui veut dire que nous sommes nous aussi, quand on vivons l'Eucharistie, artisans et acteurs de la messe. On se donne, on vit la messe. Donc la messe est un tout qui est extrêmement important, et qui nous implique dans toute notre vie de croyants, au quotidien. Le Christ nous demande de savoir témoigner, de savoir vivre dans la parole de Dieu, et ce n'est pas qu'un simple temps fort que nous vivons le dimanche, et puis on s'en va, on revient à la messe le dimanche suivant, parce que c'est la tradition par obligation. Non, nous vivons la messe au quotidien, à tout moment, dans la prière, dans notre quotidien, quand on donne un sens à notre vie, et un lien étroit, très très étroit, entre l'Eucharistie, qui est plein de trésors, c'est ce que j'essaie de faire découvrir avec le Père Eustache dans le déroulé de la messe, on voit détail par détail, tout ça, il y a une unité dans la messe, et on ne peut pas séparer l'un et l'autre. Alors, le but de ces formations, c'est, des gens ne connaissent pas du tout, je pense à des catéchumènes, au parcours alpha, ou d'autres qui découvrent la messe.
Mais pour les pratiquants, c'est toujours intéressant de revoir tout ça.
Je pense, signification de l'autel, l'ambon, bon, ça c'est le côté, si je puis dire, un peu matériel. Liturgie. Je pense aux gestes dans la liturgie, les positions du corps, debout, assis, allongé, même à genoux, le prêtre, les positions des mains, bon, des couleurs, les ornements, hein, qu'est-ce que c'est que les tons, la chasuble, ça signifie de façon simple, il faut pas aller chercher loin, mais ça a une signification et ça fait partie de la liturgie. Le vêtement blanc aujourd'hui, c'est le vêtement du ressuscité. Là, ça parle. L'eau, vêtement du baptême, parle d'elle-même. Ensuite, je le disais, eh bien, c'est la messe, c'est un tout, et ça, on le perd de vue. Il y a l'accueil, on est accueilli par le Dieu nous invite. Je dirais, c'est la dispersion au rassemblement, Dieu nous invite. Donc, tous ces rites d'entrée, le chant d'entrée, la salutation, la demande de pardon, pourquoi le Gloria, etc. Voilà, on explique pourquoi le mot de collecte, quelques mots un peu barbares. Hein. Ensuite, la liturgie, la parole. Alors, ça part de la lecture de l'Évangile, lecture de l'Ancien Testament, d'abord en tête l'Évangile, les psaumes, les Nouveaux Testaments, les trois lectures, l'Alléluia, qu'est-ce que ça veut dire? On perd la valeur et la richesse de l'Alléluia, et ça va jusqu'à plus loin, eh bien, quand dans la liturgie de la parole, eh bien, ça continue jusqu'à l'homélie, la prière universelle, tout ça, c'est la liturgie de la parole. Et après, eh bien, toute cette parole est portée à l'autel. On rentre dans la liturgie eucharistique. Voilà. Alors donc, la liturgie, tout le monde la connaît, la prière eucharistique, la préparation des dieux, des dons. La prière eucharistique, c'est familier, mais on explique les temps forts. Et après, un temps très, très fort, c'est que je qualifierais du rassemblement à la dispersion, quand le prêtre ou le diacre donne les indications, bon, sur la vie de la paroisse, etc., la bénédiction, et aller dans la paix du Christ. Allez. Et c'est le lien avec notre vie. Nous sommes
oui, c'est un envoi en mission.
C'est un envoi en mission, exactement. Et nous vivons dans notre vie, à notre niveau, à l'appel du Seigneur, le lien avec l'Évangile. C'est Jésus qui nous appelle dans l'envoi en mission. Et donc, à travers ça, je développe aussi quelques thèmes qui sont un peu obscurs, quelques termes un peu techniques, mais qui sont importants à expliquer. L'anamnèse, qu'est-ce que ça veut dire l'anamnèse? Et ça a un sens extrêmement fort. Le sens du mémorial. J'ai parlé de l'alliance. L'alliance. On parle de la nouvelle alliance. Pourquoi la nouvelle alliance? On ne renie pas l'ancienne alliance. Pourquoi? Ça a une signification extrêmement importante. Bon, l'anamnèse, la doxologie, qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, c'est ultra facile. Des mots extrêmement importants, ça c'est Vatican II. Alors, j'explique un peu, très rapidement, Vatican II, l'épiclèse. L'épiclèse, quand on invoque l'esprit. Et ça, c'est un temps extraordinaire de la liturgie, la place de l'Esprit Saint. La messe, c'est l'Esprit Saint qui se donne. Voilà, donc, Jésus agit dans l'esprit. Bon, voilà, les grandes lignes.
Donc, à travers la messe, en fait, on a un cours de théologie.
Absolument.
Pour les nuls, comme on dit.
Absolument, c'est la théologie pour les nuls. Et tout ce que dit le prêtre, eh bien, dans sa messe, quand il célèbre la messe, eh bien, il fait un cours de théologie.
Ouais.
Et qui nous parle, et qui nous implique, et qui nous invite à le vivre, et pour lequel nous sommes pleinement impliqués. Tout simplement. Mais je vais au ras des pâquerettes, mais Dieu, il va pas chercher loin, il demande pas des intellectuels, on nous demande de la vivre, simplement et de comprendre. C'est ce que j'ai envie d'expliquer. Voilà. Et puis alors après, je dirais quelques mots sur, pour conclure, parce que je suis très attaché à cette Bernadette. Nous vivons à côté de Lourdes, avec Bartret, qui a tant désiré la première communion, qui ne connaît rien, qui a vécu l'Eucharistie alors qu'elle ne connaissait rien. Et comment, dans son couvent de Nevers, et quand elle était clouée au lit, les témoignages qu'elle a donnés sur la messe et comment elle a vivé. Moi, je suis admiratif de cette façon de vivre. Et dans l'Évangile, c'est Luc qui le dit, j'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et le Seigneur, par le lavement des pieds qu'on vient de fêter au Jeudi Saint, eh bien, c'est un désir profond. Et quand il se donne, quand c'est le mémorial, eh bien, il se donne un amour mais incommensurable à nous. Vous voyez, c'est tous ces petits trésors, tout simples, qu'on oublie, alors qu'on fait tout simplement vivre ça, et bien montrer que finalement, et bien la messe, c'est un temps fort, mais qu'on ne connaît pas les trésors et les richesses. Moi, je découvre encore, mais des trésors cachés, tout simples. C'est dans notre quotidien, Dieu nous interpelle dans notre témoignage. Eh bien, on le vit au travers de l'Eucharistie et particulièrement des sacrements, mais de l'Eucharistie. Voilà. En gros, c'est un peu ma motivation. Et on a pensé que ça serait nécessaire dans le cadre de l'année du jubilé de l'espérance, que Dieu nous redonne cette espérance, envie de croire, envie de rendre de grâce. C'est un temps de louange, de partage. Et Dieu nous accompagne dans nos souffrances, dans nos difficultés de la vie, mais il nous donne un regard d'amour infini puisqu'il se donne pleinement. Et quand nous recevons le corps du Christ ou son tabernacle du Christ, ça va loin, c'est dommage qu'on soit coupé l'Eucharistie de notre vie au quotidien et qu'on ne comprenne pas l'unité et la richesse du sacrifice de la messe. Tant en disant que la communion, bien sûr, c'est le sommet, mais il y a un tout indissociable. Et tout dans l'Eucharistie, quand vous voyez dans le déroulé de la messe, c'est construit de façon remarquable, tout a un sens. Voilà.
Merci beaucoup, Michel Virac. Merci pour toutes ces explications de la messe. Et puis donc, on aura la chance de venir vous entendre, effectivement aussi invité par la Sainte Famille de Pau. Ou ailleurs, pour nous expliquer. Non, donc,
je rajoute une chose. J'ai prévu un petit support écrit que vous aurez intégralement par internet. Vous me donnez votre adresse et si ça peut vous aider pour l'avoir à domicile pour tout le monde, qu'on puisse partager. Et puis après, vous questionnez parce que ça interpelle. Moi, le premier, j'ai jamais fini d'apprendre.
On va donner des coordonnées alors si les personnes sont intéressées par ce texte.
Ah ben si vous voulez, oui.
Un email.
Michel en minuscule point. Biorac, j'appelle mon nom, biorach, @orange.fr.
Voilà, michel.birac@orange.fr, si on veut récupérer les documents. Alors, merci beaucoup, Michel.
Voilà, Birac. Avec plaisir.
Voilà, j'espère que vous avez bien pris note de cette adresse mail, si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup à Violaine Ricaud-Dumas, notre correspondante dans le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Dans quelques instants, on part tout au jardin avec Annick Baléry et on va parler de basilic aujourd'hui. En attendant, on va retrouver Kenji Chirac qui nous parle d'Eva.
Présence à Salis du Salat, 94.1.
Et c'est le prénom, tout simplement, de sa fille.
Dans tes yeux, je vois le monde autrement. Dans tes yeux, Eva, tout mon amour en grand. Dans tes yeux, je vois comme j'ai pas vu avant.
Radio Présence, dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Elle trouve son chemin toutes les semaines, tranquillement. C'est Annick Baléry. Bonjour Annick.
Bonjour Philippe Supercaz.
Alors, les causeries vertes avec... Ah oui, là on sent bien que la rentrée est passée et qu'il y a un joli petit cahier.
J'ai trouvé un joli petit cahier avec dessus un arrosoir, des cisailles, des gants, un pulvérisateur. Enfin, je me suis dit, celui-là, il est pour moi.
Il est
J'ai craqué.
Et vous l'avez acheté, ce petit cahier adorable, fond vert, avec plein d'effectivement d'ustensiles de jardinage. Nick Baléry, aujourd'hui, on va voir le... ça tombe bien pour le sanctuaire, le basilic. Alors, rien à voir avec les basiliques. Et j'avais d'ailleurs écrit en faisant une faute, parce que pour moi, j'étais reparti sur la basilique.
Ah, vous commencez moment. Mal. Et dès la rentrée, vous faites des fautes d'orthographe.
Oh, la maîtresse, elle ne va pas être d'accord avec moi. Hein. Je vais me faire gronder. Allez, le basilic, vous avez plein de choses à nous dire.
Oui, alors le basilic, ben, ce n'est pas une plante qu'on cultive et qu'on consomme depuis si longtemps que ça. Bon, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je parle comme ça. Mais c'est vrai que je refais remonter une consommation assez courante de basilic aux années 90-2000, quoi. 90, disons. Après, c'était quelque chose qu'on consommait quand on allait en Italie, bien entendu. Hein, ça fait partie des armes secrètes de la cuisine italienne. Voilà.
On le met dans le pesto, non, le
voilà, basilic. Le pesto qui est un mélange de basilic, donc haché, fin, d'huile, d'ail, de pignon et de parmesan. Ah. Et parmigiano. Et pignon de pin, c'est quelque chose qui fait que c'est, si on le fait correctement, c'est très très cher. Les pignons de pin sont quand même onéreux. Donc c'est quelquefois remplacé par des amandes pilées.
D'accord.
Il y a plein de recettes. Donc le basilic qu'on connaît bien, en particulier dans la fameuse recette de la salade de tomates, basilic et mozzarella, qui est un fromage qui est issu de lait de... La mozzarella.
Alors là, de brebis.
De bufflone.
De bufflone.
Oui.
D'accord.
Il y a en Italie des zones marécageuses dans lesquelles on élève des buffles.
Tous les
Le vrai.
Ah, le vrai, oui.
Sinon, on peut le faire avec du lait de vache, bien sûr. Mais bon, si on veut être chic, le lait de bufflone, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais qui n'est pas pratiqué depuis si longtemps que ça. Et d'ailleurs, même la consommation de tomates crues, c'est quelque chose qui est assez récent. Quand vous prenez des livres de recettes du début du XXe siècle, il y a très très peu de recettes avec de la tomate crue. En général, on la fait cuire. Et alors ça, c'est toute une histoire. Je vais vous raconter en parallèle l'histoire de la tomate. La tomate est arrivée par le biais des conquistadors espagnols d'Amérique jusqu'en Europe.
D'accord.
Les conquistadors, eux, ils avaient les recettes. Donc, ils ont très vite consommé de la tomate cuite, du gazpacho. Au XVIIe, XVIIIe siècle, les Espagnols mangeaient déjà du...
Bonne soupe froide avec la tomate.
Voilà, du gazpacho. Mais nous, non. Nous l'avons eu sous forme de graines. Et puis, on a commencé à cultiver la tomate. Alors, on l'a trouvée très jolie comme plante d'ornement. Mais on ne la consommait pas parce qu'on l'assimilait à d'autres plantes qui sont de la même famille, qui sont des poisons.
D'accord.
Comme la belladone ou la morelle. Et en fait, on a commencé à consommer en France de la tomate qu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, ce sont deux restaurateurs marseillais qui sont montés après la Révolution à Paris et qui ont apporté des recettes de tomates parce que il y avait le comté de Nice, tout ça, c'était voilà. Et les Italiens, eux, connaissaient un peu la recette, les recettes aussi autour de la tomate. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en consommer. Mais auparavant, c'était uniquement des plantes d'ornement.
D'accord.
Alors, le 19e a vu une consommation, mais surtout à base de tomates cuites. Et on a commencé vraiment à manger des salades de tomates au milieu du 20e siècle. Auparavant,
ah oui, c'est pas si bon que ça.
Pas mal, hein. J'ai un vieux livre de cuisine qui appartenait à ma maman et dans lequel on trouve, alors il y a toutes sortes de recettes, alors les choux, les pommes de terre, tant qu'on veut. Il y a trois recettes à base de tomates, dont une sauce tomate qui contient de la crème fraîche. Donc c'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on pratique maintenant, hein, qui est beaucoup à base de légumes et...
Oui.
Et uniquement de légumes, voilà.
Donc, on était parti sur le basilic.
Voilà, on va revenir quand même au basilic, donc qui est le copain de la tomate. Alors, le basilic, il est originaire d'Inde, et c'est une plante annuelle que l'on plante volontiers au pied des tomates, justement. Alors c'est une plante qui est faussement simple à cultiver. Alors on vous la vend souvent pour quelque chose de facile à entretenir, mais c'est pas si facile que ça, parce que souvent on la fait mourir à force de bons soins. Le basilic a horreur d'avoir les pieds noyés, donc si vous le mettez dans un petit pot avec la soucoupe bien remplie dessous, il va pas aimer du tout, il va devenir tout noir, il va pas aimer, il va pourrir en fait. Le basilic peut se cultiver en pleine terre, en pot ou en jardinière, en serre froide également. Et il noircit et il gèle en automne. À partir de 10 degrés, il commence à bien souffrir, à devenir très, 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 très vilain. Il dit, bon, je m'en vais, ça suffit. Voilà. Donc, le secret pour un basilic en bonne santé, déjà, c'est un sol drainé. Vous avez compris, avec une eau qui ne va pas stagner. Oui, voilà. Oui. Et puis, quand il fait très, très, très chaud, une petite ombre légère aussi, c'est pas mal. Donc, d'où la plantation au pied des tomates, ça peut être intéressant. Oui. Vous avez une ombre tamisée qui est propice.
Il est un peu pénible, le basilic.
Voilà, et finalement, pas si simple que ça à conserver. Alors, c'est une plante qui fait partie de la famille des lamiacées. Alors, les lamiacées, dans cette famille-là, vous avez la menthe, la mélisse, l'ortie aussi. Alors, une des caractéristiques des lamiacées, c'est une tige qui va être de section carrée. C'est une façon de les reconnaître. Et puis, avant, il y avait une autre dénomination, on appelait ça les labiers. Alors, les labiers, ça fait appel au terme latin qui décrit les lèvres. Quand on parle de
labial,
ouais. Voilà, ce sont des lettres que l'on prononce surtout avec les lèvres. Et en fait, cette lèvre, c'était la piste d'atterrissage des insectes. Vous avez une fleur qui est dissymétrique avec une partie qui est courte en haut et qui est allongée en bas, avec comme une petite piste d'atterrissage. Les insectes atterrissent dessus et en butinant la fleur, ils se chargent de pollen sur le dos, ils repartent et hop, voilà. Ils pollinisent les fleurs voisines. Alors, ce basilic, on appelait autrefois oranger des savetiers ou herbe à sauce, peut être utilisé aussi cuit. Il est très présent dans la cuisine asiatique.
D'accord.
Avec des saveurs quand même différentes, parce qu'il y a toutes sortes de basilic. Alors, à ce propos, je vais faire un petit clin d'œil à un site que j'aime beaucoup, qui est le site Ooreca, que l'on trouve bien sûr sur Internet, et qui, c'est un site qui s'est, il y a quelque temps, allié avec les pages jaunes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est un mariage qui va bien. Et sur ce site-là, alors, vous avez une partie qui est consacrée à la médecine, mais vous avez aussi une partie qui est consacrée au jardinage. Et je trouve que leurs fiches de culture sont vraiment très, très bien faites. Avec des descriptifs, des besoins des plantes, des compositions de sol qui sont assez réussies. Alors, sur ce site-là, donc, j'ai trouvé toutes sortes de basilic, bien plus que ceux que je connaissais.
D'accord.
Celui que l'on connaît depuis longtemps, c'est le basilic marseillais. Oh, bonne mère.
Eh oui, peu cher.
Un peu cher. Alors, il est très parfumé. Il est vert foncé, il a des grandes feuilles et celui-là, par contre, supporte bien la culture en pot. Donc, notez. Voilà. Et puis, il est lent à monter à graines, parce que c'est aussi un des problèmes du basilic, c'est que quand il fait les graines, après, les feuilles, voilà. Alors, pour éviter la montée à graines, on peut pincer le basilic. Aïe. Alors, pincer, ça veut dire qu'on va raccourcir les petites pousses latérales de façon à ce que la plante devienne bien touffue et qu'à l'extrémité des tiges, elle ne fasse pas de fleurs. Alors, ce que l'on connaît aussi pas mal, c'est ce qu'on appelle le basilic à grandes feuilles, qui est un basilic à feuilles de laitue. Les feuilles sont cloquées, vraiment grosses et un peu boursouflées. La texture est très tendre. Et celui-là, par contre, on le trouve beaucoup en Italie. Si vous voulez vraiment le goût italien, vous cherchez le basilic à feuilles de laitue. La variété que vous allez trouver le plus souvent en France, c'est le grand vert. Alors, il est vraiment très, très odorant. Et c'est celui-là que vous allez trouver en priorité. Le mammouth, alors le mammouth qui peut se cultiver même en intérieur. Alors ça, j'ai vu ça une fois dans ma vie. Et je vous assure que c'est vrai, j'ai vu à l'intérieur d'un appartement toulousain un basilic qui devait faire pas loin de 1,20 m, qui était dans un pot. Bon, un petit peu maigrichon quand même, enfin, il avait pas, le feuillage était un peu clairsemé, mais il vivait, il avait vécu plusieurs années dans l'appartement, et bon, voilà, donc c'était bien. Ben, en hiver, si on voulait faire une petite sauce, hop!
On prenait une feuille. Hein.
On prenait une feuille, voilà. Ça donnait une odeur particulière à la pièce dans laquelle il était planté. Et donc, c'est possible. Et
ils ont chacun, je suppose, quand même un goût un peu différent, quoi.
Voilà, vous avez des goûts frais, des goûts citronnés. Alors, c'est ce que nous, on favorise dans notre cuisine. Mais quand vous allez sur des variétés asiatiques, vous allez retrouver plutôt des arômes de cannelle, de clous de girofle. Un côté piquant aussi épicé. Donc vous avez la variété cannelle qui va être verte avec des feuilles violettes, des fleurs violettes, pardon. Le basilic thaï, alors le basilic thaï, il rappelle l'estragon. C'est dommage, l'estragon, il n'est pas assez utilisé à mon avis. C'est une aromatique qui est vraiment très très intéressante. Alors pourquoi estragon?
Eh bien écoutez, vous allez nous le dire la semaine prochaine.
Voilà.
Parce que le temps imparti se termine. Ça passe vite, hein, bonne compagnie.
Voilà.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour donc nous dire qu'est-ce que ça veut dire l'estragon.
Voilà. Et pour se régaler les papilles avec des petites recettes.
Avec des petites recettes. Donc rendez-vous la semaine prochaine. On continue avec le basilic en votre compagnie, Éric Valéry. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Chanter pour se dessiner un monde. C'est pas si loin le temps où je m'en allais errer, pour sentir des mélodies qui m'inondaient d'espoir. Je chantais pour oublier. Ta fille dans l'ombre, tu me regardes dans les yeux, me prends par la main et me sourit enfin. Un geste, tu m'apaises, me réchauffe un peu, je suis bien. Mais est-ce vraiment ce que je veux? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie, je crains que rien ne soit plus pareil. Amis, mes illusions, glorifiés derrière les murs d'une prison dorée, mais garder l'envie, vivre ma passion. C'est pas un écran de télévision. Sorti de l'ombre, je te regarde dans les yeux et je te sens si fragile dans ton château d'argile. Tu menaces, disparaît un peu, ainsi soit-il. Car c'est vraiment ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil. Mais je ne délire où tu m'emmènes.
Annabelle Bent à l'instant sur Présence avec Où je vais. C'était notre pause musicale. Dans quelques instants, nous allons partir du côté de l'abbaye de Tournai avec le frère Martin qui va nous faire découvrir une figure locale dont je ne savais pas qu'elle était issue de notre région. Elle s'appelle Maryse Burgot. Elle est grande journaliste à France Télévisions. Elle a écrit un livre Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysan. C'est la sélection donc du frère Martin de l'abbaye de Tournai qui sera donc accompagné d'Anne-Rose Jankovic juste après à 12h30, refaire un point sur l'actualité.
Présence à Pau 96.
Et pour cela, nous retrouvons Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac et qui reste cet été avec nous et on la remercie. Bonjour Carla.
Bonjour à tous. La récolte 2025 de la prune dante a débuté dans le Lot-et-Garonne, marquée par des conditions difficiles. La canicule a fait tomber une partie des fruits et stressé les arbres, tandis que le manque de main-d'œuvre complique la cueillette et la gestion des fours. Malgré des prunes gorgées de sucre, la filière craint des pertes de production et financières si les postes essentiels ne sont pas pourvus. La campagne devrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre. Le président des buralistes de l'Aveyron, Jean-Michel Dixédour, a rencontré le député Stéphane Mazard pour discuter de la lutte contre le trafic illégal de tabac. L'Aveyron a enregistré l'an dernier le plus grand nombre de fermetures de bureaux de tabac en Occitanie, avec seulement 148 buralistes restants contre 251 en 2003. La future proposition de loi de Stéphane Mazard vise à renforcer les sanctions pour le trafic organisé, mieux contrôler la vente en ligne illégale et soutenir les buralistes essentielle dans les zones rurales. La place de l'Europe à Toulouse, ancienne plus grande place de la ville, se transforme. Après un arrêt technique en 2024, les travaux ont repris 2025 avec une livraison prévue en octobre. Le projet prévoit 20 000 m² végétalisés, des charmes en jardinière et une fontaine centrale en circuit fermé. 87 arbres et un mobilier urbain adapté compléteront l'espace avec la restauration du monument aux morts. Les aménagements rendent hommage à l'histoire militaire du site, tout en offrant modernité et fraîcheur. À l'automne, plantation finale et installation du mobilier devraient achever la métamorphose de la place. La campagne 2025-2026 des bourses talents est ouverte jusqu'au 19 septembre dans le Gers et vise à favoriser l'accès équitable aux concours de la fonction publique. Elle s'adresse aux candidats préparant un concours de catégorie A ou B ou visant le métier de magistrat avec des aides financières de plus de 2000 euros pour les préparations classiques et 4000 pour les prépa talents. La sélection repose sur des critères sociaux de mérite et de motivation avec une attention particulière aux candidats des quartiers prioritaires ou zones rurales. Le 23 août, l'association Champ Libre aux Poules organise une distribution à la Bastide du Vert, Mascla et Figeac pour sauver des poules d'élevage destinées à l'abattoir. Pour 4 euros par poule, les adoptants pourront offrir un nouveau foyer à ces animaux, souvent issus d'élevage industriel. Depuis janvier, plus de 29 000 poules ont déjà été sauvées. Et enfin, Marie-Andrea, décédée en 2023, a consacré plus de 25 ans à Lourdes Cancer Espérance, accompagnant avec dévouement les personnes malades et vulnérables. Infirmière de profession, elle se distinguait par des gestes de réconfort et sa présence attentive auprès des patients. Son époux, Pierre Abbe, poursuit aujourd'hui leur engagement en tant que président national et délégué de l'Essonne, transmettant la foi et la force de vie de Marie-Andrea.
Voilà, à l'instant, c'était Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac qui passe cet été à notre compagnie. On remercie bien sûr tous ses élèves des écoles de journalisme de Blagnac et de Toulouse et qui ont passé cette année, hein, 2024-2025, avec nous. On les salue, bien sûr. Et le retour de l'actualité, ce sera, vous en avez l'habitude, à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Et c'est vrai que l'information internationale en ce moment est très préoccupante. Donc, on retrouve la rédaction française d'ici quelques instants. Allez, on va parler de livres et on va parler d'une autre journaliste dont je ne savais pas qu'elle était de chez nous, qu'elle était du Sud-Ouest. C'est Maryse Burgot. C'est le livre qui a été sélectionné par le frère Martin de l'abbaye de Tournai en compagnie d'Anne-Rose Jankovic.
Présence dans la vallée du Lot 92.5.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour chers auditeurs.
Nous vous retrouvons pour la dernière chronique littéraire de l'été, puisque dans quelques jours, nous reprendrons le rythme normal sur Radio Présence, en même temps que les élèves retrouveront le rythme des écoles, des collèges, des lycées, des universités. En tous les cas, pour finir cet été, vous nous proposez une autre idée lecture. Alors, ça me plaît beaucoup. Nous allons parler d'une femme au parcours étonnant, époustouflant, extraordinaire, Maryse Burgaud, grand reporter et fille de paysan. Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysan. C'est le titre de son ouvrage. C'est une femme qui a été grand reporter, qui a eu une expérience extraordinaire. Est-ce que vous pouvez amorcer cet échange en nous disant qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous frappe dans le caractère de cette femme-là?
Ben, c'est une femme, je dirais, nous ici dans les Hautes-Pyrénées, on est plutôt en ruralité.
Oui.
Et comment quelqu'un de la ruralité, peut avoir ce destin grâce à de la ténacité, une envie qu'elle avait depuis jeune. Et ensuite, pendant ses études, où elle a été surveillante, elle a essayé de faire ses études et ensuite elle a frappé à la porte de France Télévisions et elle a réussi par son professionnalisme et par sa ténacité à y rester et du coup être grand reporter. Et maintenant, avec ce livre, je pense qu'elle prend une envergure incroyable.
Oui, parce que alors Maryse Burgaud, on va retenir ce nom, parce que pour l'instant, ça n'est pas un nom qu'on connaît beaucoup, mais c'est vrai qu'avec cet ouvrage dans lequel elle raconte tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé, il y a de quoi être époustouflé et vraiment retenir ce nom, Maryse Burgaud. On peut peut-être dire quelques-unes des aventures qui lui sont arrivées. D'abord, c'est une femme qui a été prise en otage. Ça, c'est quand même incroyable.
Oui, tout à fait. Mais même si les auditeurs n'ont pas l'impression de connaître son nom, vous connaissez sa voix parce que vous l'entendez pendant les reportages dans les journaux de France Télévisions. Oui, elle a vécu une expérience un peu difficile à un moment en Indonésie puisqu'elle a été otage. Que ça n'a pas duré trop longtemps, qu'elle s'en est sortie. Et elle raconte ça au début pour faire sortir la chose, que ce soit dit. Et elle dit « ils n'auront pas ma douleur, ils n'auront pas ma haine ». Et elle continue à faire ce qu'elle a fait. Et le problème de cette prise d'otage, c'est qu'il nous raconte, peut-être que le grand public sait moins, et ce que moi je savais moins, c'est qu'ils ont des relais, ce qu'ils appellent des fixeurs, des gens dans les lieux où ils vont, qui les aident pour s'aiguiller. Et en fait, ils sont tombés sur quelqu'un qui était à la solde de ces révolutionnaires et qui donc, au lieu de l'envoyer voir la personne qui voulait interviewer, ils se sont retrouvés pris dans les filets. Voilà. Ils ont été figés, mais avec toute l'équipe.
Alors ça, c'est une des aventures qui lui est arrivée, mais elle en a eu d'autres, plus ou moins douloureuses, mais souvent quand même des épreuves. Elle a sauvé un enfant en Haïti après, je crois, un tremblement de terre.
C'est ça, oui. Et elle raconte donc qu'elle est envoyée pour rendre compte de ce qui s'est passé. Ils vont dans un orphelinat où les gens allaient, adopter des bébés, quoi.
Oui.
Et ils tombent sur quelqu'un qui est dans une situation vraiment de grande précarité. Et puis, la situation, elle se dit, mais c'est pas possible, une petite fille, là, comme ça, qui risque de mourir. Et donc, elle fait appel à un médecin qui est simplement là pour faire des statistiques, mais qui est médecin. Et finalement, ils la prennent et l'équipe de télé l'amène à l'hôpital et ils arrivent à la sauver. Elle va dans une famille d'accueil et elle est en France et tout. C'est vraiment, elle dit, le destin dans une situation, on ne peut pas sauver tout le monde, mais là, ils se sont laissés toucher avec l'équipe par cette fille, et ils ont réussi à la sauver.
Elle n'était pas là pour ça, mais elle l'a sauvée, elle a quand même sauvé cet enfant. Alors, elle a couvert des événements, vraiment, en fait, son livre raconte vraiment, la vie peut faire mémoire de tout ce qui s'est passé dans le monde, à travers le monde, ces 20 dernières années, notamment les attentats à Londres, elle y était, elle a couvert aussi cet événement, et elle le raconte avec beaucoup de force.
Oui, beaucoup de force, parce que c'était une journée normale, elle n'avait même pas commencé à travailler, et puis finalement elle est allée aider ses collègues, et surtout, ce que peut-être on a oublié, mais qu'après ces 3 ou 4 attentats qui ont eu lieu en même temps dans le métro et dans un bus, Londres était vide de toute circulation.
C'était en 2005.
Oui, les gens étaient à pied, et le contraste était aussi très puissant, parce que la veille, Londres avait appris qu'ils étaient ville retenue pour les JO de 2012. Et donc, tout était prévu pour une grande fête, et puis, il n'y a rien du tout, quoi.
Ah oui. Et elle raconte ça, elle y était...
Et puis surtout, elle a peur, parce qu'il y avait ses enfants et tout. En fait, tout le monde avait très, très peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre aussi une grande résilience des Anglais, parce qu'elle dit que le surlendemain, tout le monde avait repris son travail. Et ne pas faire le jeu des terroristes qui auraient peut-être tout arrêté. Au contraire, la vie continue en faisant attention.
Donc elle raconte ça aussi, hein, les événements et puis aussi les cultures, les pays, les civilisations.
Tout à fait, oui.
C'est tout ça qui ressort. Évidemment, elle a été en mission dans des pays en guerre. La Bosnie, notamment.
Et l'Ukraine, oui, aussi.
Et l'Ukraine. Alors ça, c'est intéressant aussi. Elle raconte quand même, à travers toutes ses missions, elle est grand reporter sur des terrains difficiles, quasiment à chaque fois. Et elle est quand même maman. Et elle est toujours maman. Et elle raconte, c'est un peu amusant, elle raconte aussi comment en Ukraine, alors qu'elle est en train de couvrir la guerre, et toujours l'horreur de la guerre, eh bien, un de ses enfants l'appelle pour un conseil culinaire.
Tout à fait, c'est ça, oui. C'est vraiment le décalage. Il y a des bombes, il faut qu'il fasse attention. Puis, pof, son téléphone sonne, elle voit que c'est ses enfants. Donc, elle répond. Ils ont un souci pour faire la cuisine, ils appellent leur mère. Et donc, et du coup, au lieu de leur dire qu'elle va pas pour pas les affoler, elle leur dit pas la situation dans laquelle elle est. Et donc, du coup, elle répond à leurs questions et elle reprend, quoi. Voilà. Ça, ouais. C'est complètement surréaliste.
Ouais. Alors ça, c'est vraiment une histoire d'un parcours incroyable. Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysan. C'est l'histoire de Maryse Burgot, qui est toujours en mission, hein, qui est toujours journaliste. Hein, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est pas les mémoires passées d'une vieille journaliste.
Non.
C'est une journaliste d'aujourd'hui qui nous raconte la vie d'aujourd'hui et ses missions de journaliste aujourd'hui. C'est un livre pour un public assez large, là aussi.
Tout à fait.
Idéal pour des jeunes qui veulent apprendre l'histoire sans avoir l'impression d'apprendre l'histoire.
Mais ça permet de revisiter en gros un peu plus des 20 dernières années qui sont derrière nous et voilà et puis de nous remettre à mémoire les événements et d'avoir une vue voilà qui est la plus photographique possible quoi sans éviter de prendre parti mais raconter ce qu'on voit.
C'est pas un livre de géopolitique pour vous ?
C'est un livre d'histoire.
C'est un livre d'histoire.
Et qui, évidemment, décrit la situation géopolitique. Ça, c'est sûr qu'elle y est confrontée, quoi. Ça, c'est clair.
Bien sûr. C'est paru aux éditions Fayard. Il y a déjà beaucoup d'exemplaires qui ont été vendus. Et le prix du livre est de 20,90 €. Ça reste accessible. Et c'est bien sûr un livre que vous avez dans la librairie de l'abbaye de Tournai.
Et que nous avons lu au réfectoire des moines.
Ah, voilà. Et qu'en ont pensé les frères ?
Ah, ben, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié.
Voilà, eh bien, merci beaucoup, frère Martin, et merci à Maryse Burgot, cette journaliste grand reporter qui nous raconte ses aventures dans ce livre, Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysan. Merci, frère Martin, on vous retrouve en septembre. Vous nous donnerez de quoi nous donner du courage pour affronter la rentrée.
Voilà, bonne lecture à vous.
Merci.
Ne lâchez pas les livres.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors, on va dire à nos auditeurs que quand vous arrivez à la radio, on blague un petit peu quand même.
Ouais. Oui.
Vous n'arrivez pas, vous installez pas devant les micros, donc on blague un petit peu. Et vous me racontiez cette anecdote, vous avez des gens que vous connaissez, qui vous ont appelé, qui écoutaient votre chronique sur le plateau de l'Almezan, alors que vous faisiez une chronique sur le plateau de l'Almezan.
Voilà.
C'est quand même incroyable.
Oui, c'était une chronique d'Henri Russel qui parlait du plateau de l'Almezan.
Voilà, et cette
on
personne.
Dit qu'il n'y a pas de hasard,
c'est incroyable. Je sais que cette chronique est aimée. Pour certains, c'est un moment de récréation, un moment de. Ben, on s'évade un petit peu grâce à vous. Et on passe à toutes les personnes, des fois âgées, qui sont isolées, qui ont comme présence, et la radio qui s'appelle Présence.
Oui.
Elle est faite aussi pour ça. Et vous faites partie des gens qui égayaient l'ordinaire de certains. Merci. Anne Lasserre, pour votre fidélité. Je rappelle, parce que c'est bien de le rappeler à la radio, vous êtes bénévole, et ça, c'est très gentil à vous, parce que ben, vous ne demandez rien, et c'est même vous qui amenez le papier. Alors, aujourd'hui, vous allez nous présenter un texte écrit par Ramon de Carbonnière.
Oui, alors Philippe, j'ai déjà lu sur cette antenne des textes de Ramon de Carbonnière, car il est impossible de parler de lui, de parler, Philippe, des Pyrénées, sans évoquer Ramon de Carbonnière.
D'ailleurs, il est considéré comme le père fondateur du pyrénéisme. Afin de mieux comprendre la formation des Pyrénées, il tente plusieurs fois l'ascension du Mont Perdu. Il atteint son sommet le 10 août 1802.
Oui, et il découvre les Pyrénées en même temps que le cardinal de Rohan. Il est son secrétaire et il suit le cardinal lorsque celui-ci, après l'affaire du collier de la reine, est obligé de s'exiler à Barège en 1787.
Les Pyrénées sont en effet considérées comme des terres d'exil à l'époque. Ce sont des terres lointaines situées au fin fond de la France. En plus, elles sont à l'écart des grandes voies de communication et elles deviennent un objet d'étude pour Ramon, mais Anne Lasserre, on vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Ramon de Carbonnière parcourt les Pyrénées à la fin du XVIIIe siècle. Il connaît déjà les Alpes, mais il se passionne pour les Pyrénées. Il dit même qu'après avoir vu les montagnes calcaires, il faut voir les premières montagnes granitiques. Dans ses écrits, il compare souvent les bergers des Alpes et ceux des Pyrénées. Selon lui, le berger des Pyrénées est bien plus misérable que le berger des Alpes. Dans ses carnets pyrénéens, tenus entre 1792 et 1795, voici ce qu'il écrit alors qu'il parcourt le Lavedan. Nous trouvâmes notre berger occupé à faire son fromage. Tout est ici de la grossièreté des premiers âges, ustensiles et procédés. D'abord, on passe le lait. Le filtre est une tresse de crin pris dans la queue de la vache et roulé au fond d'un entonnoir de bois de pin. Le bois de pin, disent les bergers, est seul propre à cet usage. Le sapin n'y vaut rien. Quant aux vases où on tient le lait, ils sont faits de pin ou de sapin. L'invention en est ingénieuse. On prend une portion d'un tronc de sapin ou de pin pourri sur place. On évide tout l'intérieur qui est dans l'état de décomposition et n'oppose aucune résistance. L'écorce reste avec la partie du bois qui lui est voisine avec l'aubier et qui, étant imprégnée de la térébenthine de l'arbre, a résisté au ver et à la putréfaction. On nettoie et polie à l'extérieur et à l'intérieur le cylindre creux que l'on a obtenu de cette manière. Et il présente des surfaces agréablement variées de veines tortueuses qui lui donnent l'air d'une belle racine de buis. Souvent, il y a des trous occasionnés par l'insertion des branches dont les nœuds ne tiennent point. On donne à ces trous la forme d'une étoile, d'un croissant, et l'on y coule de l'étain qui sert d'ornement au vase. Après quoi, on y attache un fond d'une planchette de sapin. L'on y fixe avec des broches d'étain un manche de buis et l'on y adapte un couvercle muni d'un bouton ou d'une anse. Le lait passé est placé dans ces vases, puis il est plongé dans le courant d'eau le plus voisin où l'on a pratiqué un réduit et de grosses pierres recouvrent le dépôt où le lait se tient frais jusqu'à ce qu'il ait tiré sa crème. La crème est enlevée avec des cuillères de bois. Elle est enfermée dans une outre destinée à faire le beurre à force d'agitation. On n'emploie donc pour faire le fromage que du lait écrémé. On y jette, après l'avoir fait légèrement chauffer, de la présure prise ordinairement dans un estomac d'agneau. Comme on en tue peu, on est souvent embarrassé de s'en procurer. Le lait reposé et caillé, je vis notre berger prendre son bâton, en laver le manche et avec ce bâton agiter circulairement et péniblement le lait qui était alors dans les chaudières de cuivre où il avait été chauffé. Les bergers des Alpes sont plus ingénieux. Ils emploient une sommité de sapin à laquelle on a conservé ses branches latérales et que l'on a bien nettoyée de son écorce. Ainsi, en faisant rouler le manche entre leurs mains, ils séparent le petit lait de la partie caseuse, comme on fait mousser du chocolat. Que de service rendrait ici un homme parfaitement instruit dans l'économie pastorale des Suisses et qui pourrait persuader quelques bergers de ces contrées d'en adopter les procédés. Le petit lait étant bien séparé de la partie caseuse, celle-ci est exprimée, pétrie, salée et mise en pain dans des formes où il est comprimé par des pois. Le petit lait a dans ses pâturages une saveur délicieuse. Le petit lait ne fait pas ici, comme dans les Alpes, le breuvage habituel des bergers. Ils ne le considèrent ici, dans les Pyrénées, que comme un purgatif salutaire. Quelle différence en tout point entre un berger des Pyrénées et un berger des Alpes. Ici, c'est un barbare, surpris au milieu de ses grossières habitudes par la civilisation qui l'environne et ne l'atteint point. Là, C'est un homme versé dans une partie importante de l'économie rurale. Dans les Alpes, je vois un grand établissement pastoral. Dans les Pyrénées, les petites ressources de la vie nomade. Il faudrait être bien ignorant ou de bien mauvaise foi pour ne pas sentir que cette différence ne tient ni au climat, ni au caractère. L'un et l'autre sont à l'avantage du berger des Pyrénées. Elle tient à la pauvreté, conséquence nécessaire et terrible d'un mauvais gouvernement. À la pauvreté qui engendre la pauvreté plus sûrement encore que la richesse n'engendre la richesse. À la pauvreté qui se communique des pasteurs à son troupeau, qui prive le veau, l'agneau, le chevreau du lait de sa mère. Fait des élèves sans force, des vaches sans lait, des taureaux sans fierté, qui épuise les pâturages où la nature est féconde, détruit les bois sans les remplacer, repousse au loin dans les vallées basses les troupeaux et les habitations. Ramon de Carbonnière est surtout connu pour avoir écrit Observations faites dans les Pyrénées ou Voyages au Mont Perdu. Mais il tenait aussi des carnets dont les pages sont noircies d'une petite écriture toute fine. Il y notait ses observations de la journée. Le passage retenu est extrait des carnets pyrénéens, écrits par Ramon de Carbonnière entre 1792 et 1795 et publiés par les éditions de L'Échauguette en 1931.
When the sand of her lingers in town.
Présence à Montrégeau, 94.1.
Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée, et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Tu m'aimes vraiment, dis-moi. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est tout ce qu'elle sait dire. En pouvant, en rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie. Où est-elle, nom de Dieu? Elle a dû remonter par la rue de Rivoli. J'ai de la flotte plein les yeux. Parce qu'elle avait rêvé, je ne sais quel amour absolu éternel. Il faudrait ne penser, n'exister que pour elle, chaque nuit, chaque jour. Voilà ce qu'elle voudrait, seulement il y a la vie, seulement il y a le temps. Et le moment fatal, le vilain mari tue le prince charmant. L'amour, son bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair, je les ai oubliés. Où donc est-elle partie? Voilà qu'il pleut des cordes, mon Dieu, regardez-moi. Me voilà comme un con, place de la Concorde. Ça y est, je la vois. Attends-moi, attends-moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. À Cahors, 92.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La paix n'est pas une utopie spirituelle, c'est en substance le message du pape Léon XIV aux participants du traditionnel meeting.